Vous pouvez fermer les yeux si cela vous aide, ou du moins les garder mi-clos. Si vous avez les yeux ouverts, cela suscite la distraction. Donc pendant quelques instants, nous allons nous concentrer sur le souffle. Rien d'autre que le souffle. Rien d'autre à l'esprit que toute l'attention sur le souffle. Dans l'espace devant nous apparaît Lama Chenrezig, le Bouddha de la compassion. Donc ceux qui ne sont pas habitués à la visualisation, juste ressentez la présence d'un être de pure lumière, dont la nature est la compassion universelle et l'amour inconditionnel. Et dans cette présence générée du plus profond de votre être, de votre cœur, cette aspiration à réaliser votre potentiel le plus élevé, cette nature de Bouddha, dans le seul but de libérer les êtres de la souffrance et de les amener au bonheur. Rappelez-vous, le but n'est pas de réaliser l'état de Bouddha. Ce qui passe avant, c'est pas ma propre illumination. Ce qui passe avant, c'est le bonheur des êtres. Ce qui passe avant, c'est la souffrance des êtres. Donc, afin de les libérer de la souffrance et les amener au bonheur, je dois réaliser ce potentiel illimité qui est ma nature ultime. Mais ce qui passe en premier, c'est les autres. C'est l'éveil des êtres. Donc, l'éveil, mon propre éveil n'est pas le but. Ce qui est le but, c'est le bonheur des êtres. Et le moyen pour arriver à cela, c'est l'éveil. Il y a une immense différence entre les deux. Afin de générer les causes de cet éveil, l'amour inconditionnel et la compassion universelle. Quand on parle de compassion universelle, Ça sous-entend que tous les êtres, tous sans exception, sont l'objet de notre compassion. Que tous les êtres sans exception sont l'objet de notre amour. S'il y a même un seul être que l'on met de côté, alors on ne peut pas parler d'amour universel, de compassion universelle. Et donc, la nature même de l'éveil est totalement inaccessible. Donc notre esprit doit tendre vers une envergure universelle. Qui comprend, qui inclut le bien de tous les êtres, sans exception. C'est-à-dire, pas seulement l'être qui est torturé, mais également celui qui torture. Pas seulement l'être qui est tué, mais également la personne qui tue. Pas seulement l'être qui maltraite des enfants, pas seulement l'enfant qui est maltraité, mais également la personne qui maltraite les enfants. La compassion doit s'étendre à tous les êtres. Donc, nous allons encore revenir une fois sur l'équanimité. Comme nous avons déjà fait ce matin. Donc à travers les premiers raisonnements, nous avons vu que ce que nous croyons être de leur propre côté, soit un ennemi, soit un ami, soit un étranger, nous avons vu ce matin que c'est une projection totale de l'esprit qui est essentiellement, seulement concerné par son propre bonheur. En réponse à cette demande insatiable de plaisir, de confort, de bonheur, donc nous allons notre esprit va projeter sur l'autre une qualité d'ami ou d'ennemi ou d'étranger. Après ces étiquettes, après le fait de croire à ces étiquettes, nous allons expérimenter différentes expériences intérieures. Même en une journée, une personne que l'on considérait comme un ami, même en une journée, cette personne-là peut passer dans la catégorie ennemi. Juste une attitude, juste quelques mots, une critique. Alors l'esprit chavire de l'attachement chavire dans l'aversion, dans le rejet, dans la frustration. On voit à quel point tout dépend de comment notre esprit interprète, comment notre esprit perçoit. Maintenant, on va un peu plus loin dans la démarche de l'équanimité. Donc, comme nous avons vu ce matin également, ce qui apparaissent négatifs maintenant ont été d'innombrables fois bénéfiques. Ce qui semble être bénéfique ont été négatifs. Quoi qu'il en soit, les êtres en général sont beaucoup plus bénéfiques pour soutenir notre vie. Encore une fois, cela dépend de comment l'esprit perçoit, sur quoi l'esprit se concentre, sur l'aspect négatif ou sur l'aspect positif. L'autre point de l'équanimité est de s'imaginer devant soi un ami, un ennemi, une personne qui nous blesse, qui nous a critiqué, qui nous a fait du mal, et une personne que l'on considère comme un étranger. Maintenant, si nous nous plaçons du côté de ces êtres, regardons de façon objective leur désir profond, leur désir de ne pas souffrir, pas même une seconde, pas même un seul instant, pas même la moindre petite souffrance. Honnêtement, objectivement, pouvons-nous dire que ce que ressent mon ami est réellement tellement essentiel, tellement important dans son désir de ne pas souffrir, et que je suis prêt à faire des efforts, même faire certains sacrifices pour l'aider, même au prix de certaines actions peut-être négatives à l'encontre d'autres personnes. Et que d'un autre côté, ce que ressent mon ennemi n'a aucune importance. Non seulement son désir de ne pas souffrir n'est pas important, mais en plus, je peux même me réjouir de sa souffrance. Et que la personne que je considère comme un étranger, en aucun cas d'être touché par sa souffrance. Est-ce qu'il y a une seule raison valable, une seule raison logique pour agir de cette sorte? Est-ce que du côté de ces êtres, au-delà de l'étiquette ami, ennemi, étranger, au-delà de cette étiquette, au-delà de cette apparence, n'y a-t-il pas un être sensible? Juste un être sensible. Sa façon d'être dans la vie est totalement identique. Ces trois personnes sont totalement à 100% identiques. Leur souffrance est souffrance pour ces trois, de la même façon. Au-delà de mon étiquette, au-delà de mon label, amis, ennemis, étrangers, l'expérience qu'ils font de la souffrance est exactement la même. Maintenant, imaginez-vous, imaginez ces trois personnes, par exemple, dans une situation de grande souffrance, avec une maladie, avec énormément de douleurs physiques, morales. Et vous avez un traitement qui peut soulager ces souffrances. Quelle va être notre attitude? Est-ce que nous allons favoriser seulement la personne que nous considérons comme un ami et que nous allons totalement rejeter la personne que nous considérons comme un ennemi, si nous voyons juste cet aspect de souffrance? Est-ce que cela semble juste? Est-ce que cela semble raisonnable d'agir ainsi? Maintenant, si l'on relie cela à notre expérience dans la vie de tous les jours, quelle est notre véritable attitude par rapport à ceux que nous considérons comme des ennemis quand ils souffrent, quand ils ont des problèmes, quand ils se sentent seuls, quand ils se sentent démunis face à tel ou tel problème? Est-ce que nous ne sommes pas dans le cas de refuser ce traitement, de refuser ce médicament? Juste à cause d'une projection, juste à cause d'un désir venant du chérissement de soi qui n'a pas été assouvi, juste à cause d'une parole blessante, on va abandonner l'autre. Il n'y a aucune raison valable pour discriminer. Les êtres sont tous totalement à 100% identiques dans leur désir de ne pas souffrir. Et cela devrait amener en nous un engagement équanime, impartial pour soulager la souffrance de tous les êtres. Comme dit Shantideva, la souffrance, parce qu'elle est souffrance, doit être combattue partout. On ne peut pas commencer à discriminer. Sinon, encore une fois, on ne peut pas parler donc de compassion universelle. Pareil du côté de l'amour, ces êtres tous, ils sont identiques dans leur souhait, dans leur désir d'avoir du bonheur. En fait, ils ne cherchent que le bonheur continuellement. Imaginez-vous une situation où il y a en face de vous donc ces trois personnes, amis, ennemis, étrangers. Ces personnes sont toutes trois dans l'attente d'un certain confort, d'un certain bonheur, d'un certain plaisir. Peut-être ces personnes, par exemple, ont froid ou ont faim, et vous avez réellement de quoi satisfaire ces gens, de leur amener ce bonheur. Il n'y a pas du côté de ce que l'autre désire. Il n'y a pas de raison valable pour discriminer. Il n'y a pas de raison valable pour donner à l'un et refuser l'aide pour l'autre. c'est juste l'esprit sous le pouvoir de l'aversion, sous le pouvoir de la discrimination, qui refuse son aide pour cette personne, pour l'autre. Nous consacrons en général cette bienveillance essentiellement pour ceux qui, comme disait Trungpa Rinpoche, c'est on veut bien nourrir l'autre après avoir soi-même été nourri. Si l'on reçoit quelque bonheur, quelque confort de l'autre, alors nous sommes prêts à lui concéder quelques bienfaits. Mais là, on ne peut pas parler de véritable amour, de véritable bienveillance. Donc, dans cette attitude qu'on essaye de générer, c'est on dépasse cette attitude d'être juste bienveillant avec ceux qui sont bienveillants à notre rencontre. De donner le bonheur à ceux qui nous ont donné un peu de bonheur. De donner la nourriture à ceux qui nous ont nourris. On veut bien assumer le fait de ne rien recevoir de l'autre. De quand même générer cette bienveillance et parce que l'autre est plus important. Donc, de ce point de vue, ces trois êtres que l'on voit à cause de l'esprit halluciné sous le pouvoir du chérissement de soi. De leur côté, le désir de bonheur est exactement, à 100% exactement le même. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas discriminer. Je ne peux pas favoriser l'un et rejeter l'autre. Ça n'a pas de sens. Aussi, ce qui nous amène à discriminer de la sorte entre l'ami et l'ennemi, c'est cette conception que l'on a de la permanence des choses. Il n'y a pas aucune raison de s'accrocher à celui que nous sommes, que nous considérons comme un ami, car à chaque seconde, il est en train de mourir, je suis en train de mourir. De la même façon, il n'y a pas de raison de s'attacher dans le sens de l'aversion à l'ennemi, car il est en train de passer, je suis en train de passer. Parfois, l'exemple que l'on donne dans les enseignements, c'est deux animaux que l'on mène à l'abattoir. La fin est inévitable. Il n'y a pas de raison, ça n'a pas de sens que ces deux animaux qui sont amenés à l'abattoir s'attachent de façon extrême. Je ne veux pas que tu... je ne veux pas être séparé de toi. Je ne supporte pas d'être séparé de toi. De mettre tous les espoirs dans un être. Ou de rejeter comme deux animaux qui seraient sur ce chemin de l'abattoir et qui seraient continuellement en train de s'attaquer l'un et l'autre. Ça n'a pas de sens. Le peu de temps qu'il nous reste à vivre, pourquoi dépenser toute cette énergie pour détruire, pour être dans l'hallucination de croire dans l'aspect sombre et négatif de l'autre et de vouloir le blesser, le détruire. Ça n'a pas de sens. Si je devais mourir aujourd'hui, quelle espèce de regret encombrerait mon cœur si je devais mourir dans cette avec cette attitude intérieure d'aversion pour une personne, d'avoir rejeté cette personne, de l'avoir abandonnée. Quel immense regret serait en train de broyer mon cœur. Et si cette personne, elle, doit mourir aujourd'hui, nous nous sommes, par exemple, quittés avec ce sentiment d'aversion, avec cette colère en soi, de la même façon, que ce soit la personne ou que ce soit moi qui devrais mourir aujourd'hui, ce qui est tout à fait possible. Dans les deux cas, quelle espèce de remords, de regrets inutiles, de ce fardeau inutile, nous pourrions expérimenter. Donc l'équanimité est une façon de aussi d'éviter cet extrême de rejeter, abandonner l'un et de s'attacher totalement, excessivement à une autre personne. Il y a plus d'espace pour laisser venir et laisser repartir l'autre. L'accueillir totalement avec la bienveillance. Lama Shenrezig, je t'en prie, accorde-moi ta grâce et tes bénédictions, afin d'être libre de ces deux extrêmes, de l'attachement et de l'aversion. Afin que mon cœur soit mon esprit, mon cœur soit totalement ouvert, prêt à accueillir les êtres allant au-delà de l'apparence positive ou négative, percevant seulement le désir intense que chacun d'eux a d'être libre de la souffrance et de vouloir du bonheur. En fait, depuis le début, tout ce mode de réaction, d'attachement, de répulsion, ou même d'indifférence, tout cela est basé sur le principe que, de toute façon, mon bonheur et ma souffrance est plus importante que le bonheur et la souffrance de l'autre. Ça, c'est la base même de l'hallucination, de toute la souffrance. C'est la base même de toute cette discrimination entre l'ami, l'ennemi et l'étranger. Peu importe ton désir de bonheur, ton désir de ne pas souffrir. Dans un sens, c'est je ne suis pas réellement concerné par ta réalité, par ton désir. Seulement ma réalité, seulement mon désir. Si ce que tu exprimes va dans le sens de mon désir, de ma réalité, alors tu es un ami. Si ce que tu exprimes ne va pas dans le sens de ma réalité avec un M majuscule, alors tu es un ennemi. Mais on voit que la seule chose qui compte dans cette attitude, c'est seulement moi. Mais en fait, il n'y a aucune base logique à ça. Il n'y a aucune raison logique pour dire que mon bonheur est plus important que ton bonheur. Donc encore et encore, nous devons méditer sur ces aspects de l'équanimité avec continuité et persévérance. Nous devons de même demander continuellement les bénédictions de Lama Chanrezig. La compassion vivante de tous les Bouddhas qui se manifestent sous cette forme. Demander son inspiration, réciter son mantra avec le désir intense de transformer notre esprit. Une fois que nous avons généré cet espace intérieur qui peut réellement accueillir tous les êtres sans exception, seulement alors, nous pouvons concevoir l'idée que tous ces êtres ont été notre mère. Si notre esprit n'a pas de commencement, si cet esprit actuel ne peut pas naître des parties physiques des parents, cela veut dire qu'il y a une continuité dans la conscience, que seule la conscience peut donner naissance au prochain moment de conscience. Aucun phénomène matériel physique peut donner naissance à un phénomène qui n'est pas physique, un phénomène immatériel, comme la conscience. Donc par déduction, on peut voir que le premier conscience de cette vie vient du moment précédent, d'une conscience précédente qui appartient donc à une autre vie. Cette conscience, par le pouvoir des actions, et aussi par le pouvoir des perturbations, les perturbations étant à l'origine des actions, à transmigrer vie après vie, existence après existence, dans tous les états du cycle, que ce soit comme humain, animal, insecte, esprit avide, être des souffrances infernales, Dieu, demi-Dieu. Dans la plus grande partie de ces renaissances, la conscience, pour s'incarner, a eu comme support un corps, que ce soit le corps d'un être humain ou d'un animal, excepté dans le royaume de la forme et du sans-forme, excepté dans les royaumes des souffrances infernales. Sinon, dans tous les autres royaumes, il y a toujours eu recours à un père et une mère. L'esprit omniscient du Bouddha ne peut pas voir de commencement à notre errance. Il n'y a pas de d'origine à notre ignorance. Comme l'ignorance est la cause des perturbations, les perturbations sont la cause des actions, du karma. Donc depuis des temps sans commencement, nous avons erré, pris des corps, puis nous les avons abandonnés, à nouveau pris un autre corps, puis à nouveau abandonné ce corps, encore et encore. Et par le pouvoir des différentes actions, soit positives, soit négatives. Donc nous avons erré dans les royaumes supérieurs ou dans les royaumes inférieurs. Cette loi de causalité est une loi universelle. N'est pas une loi bouddhiste. Si l'on met une graine de fruit empoisonné dans le sol, nous pourrons obtenir que seulement un fruit empoisonné. Donc nos actions négatives, dictées par l'ignorance, le désir, la colère, l'orgueil, la jalousie, la peur, ces actions, comme autant de graines semées dans un champ, ont successivement donné comme résultat des naissances dans les royaumes de souffrance. Et quand ces graines étaient plutôt vertueuses, plutôt positives, donc nous avons pu obtenir des corps de moindre souffrance. Mais dans tous les cas, donc, depuis les temps sans commencement, nous avons eu des parents à l'origine de nos naissances. Donc en fait, comme le dit Nagarjuna, il n'y a pas une seule place dans ces univers infinis où nous ne sommes pas allés, pas une seule forme que nous n'avons pas pris, encore et encore. De la plus élevée à la plus douloureuse, en passant par les formes animales que nous considérons comme les plus repoussantes, nous avons pris toutes ces formes encore et encore sous le poids du karma et de l'ignorance, sous le poids des actions. À chaque fois, notre naissance la base de notre naissance est venue d'une mère. Seulement si on considère dans le cas d'une naissance humaine juste seulement la souffrance d'une mère pour donner naissance à son enfant. Sans compter tout ce qui s'est passé avant, tous les inconforts qu'elle a dû expérimenter, tous les changements d'énergie, les malaises, les nausées, la fatigue, des fois les dépressions. Juste seulement la souffrance qu'elle a expérimentée à notre naissance. Son corps a été déchiré. Parfois pendant de longues heures. C'est juste seulement ce moment, seulement cette souffrance. Maintenant, si on considère les êtres que l'on peut rencontrer dans notre vie avec cette conscience, cette personne a souffert de cette façon une fois, sûrement plus qu'une fois, mais une fois dans mon cycle, dans ma continuité d'existence. Cette personne a eu cette immense expérience de souffrance une fois, sûrement plus qu'une fois, juste pour me donner naissance. À un moment donné, il y a un rapport. La personne qui était extrêmement loin, qui était éloignée de mon intérêt, que je ressentais comme extrêmement loin de moi, à travers cette prise de conscience, voir que cette personne a tellement souffert, s'est tellement donné pour me donner naissance, juste une fois, sans prendre en compte que, en fait, ça s'est passé d'innombrables fois, mais juste une seule fois. La personne, tout d'un coup, devient extrêmement proche de mon cœur. De voir à quel point cette personne a expérimenté de la douleur et a dû souffrir comme ça. Juste de ressentir ça dans son cœur. Sans parler de tout le temps passé à l'éducation, à, comme étant enfant, laver le corps, nourrir, apprendre à marcher, à écrire, apprendre les valeurs de la vie, sacrifier son temps, son énergie, les plaisirs, avoir tellement travaillé pour donner une éducation. Aussi souvent, pour nous protéger, pour favoriser certains pour nous amener certaines facilités dans la vie. Parfois, les parents n'hésitent pas à créer des actions négatives, mentir, parfois voler, parfois même tuer les animaux ou les insectes qui pourraient blesser le petit. Favoriser son enfant tout en défavorisant l'autre. En fait, il y a non seulement une immense énergie mise dans le sens du sacrifice, de l'énergie, mais aussi tout un poids d'action négative qui est accumulée pour protéger l'enfant. Juste pour les choses basiques, pour les choses essentielles de la vie. Sans parler dans le cas où, quand les parents ont l'affection, la tendresse, la générosité, la bienveillance. Tout ça c'est en plus. Mais juste pour la survie du corps, juste pour la, pour l'éducation, seulement pour ça. Tellement d'énergie, et aussi les parents tellement sont chargés de tellement de karma négatif. Si on, maintenant, si on exclut totalement si on exclut totalement la croyance de l'existence des la succession des renaissances, y a-t-il de se poser cette question du fond du cœur, y a-t-il seulement une seule chose dans ma vie, une seule chose qui ne vient pas de la bonté des êtres, qui ne vient pas de juste de l'existence des êtres. La moindre bouchée de nourriture, la moindre gorgée, même une seule gorgée d'eau, mes vêtements, ma maison, juste seulement prendre conscience de que nous sommes continuellement submergés par la présence, par la bonté des êtres. Le moindre confort, le moindre plaisir, la moindre lettre que nous pouvons déchiffrer dans un livre, sans parler tous les livres que nous avons lus, la moindre lettre que nous pouvons déchiffrer, cela vient de la bonté des êtres qui nous ont appris à lire. La moindre qualité que nous avons, la générosité, d'où vient la générosité? S'il n'y a pas d'objet de notre générosité, il n'y a pas de générosité possible. La moindre qualité que nous pouvons manifester vient de l'existence des êtres. Il n'y a rien qui ne vient pas de l'existence et de la bonté des êtres. Imaginez seulement pour un grain de riz, juste pour un grain de riz, tous ces êtres qui ont dû tellement, tellement travailler, tellement donner de l'énergie. Il y a les êtres qui ont travaillé, donné de leur énergie, qui ont souffert par cela. Non seulement ça, mais qui ont créé des actions négatives, sûrement en tuant des insectes, peut-être des animaux. Donc il y a aussi toute cette souffrance des êtres qui entourent, juste pour avoir un grain de riz, juste pour avoir un bol de riz. Tellement d'êtres ont dû participer. Pas seulement ceux qui ont semé, fait les récoltes. Mais après, on peut voir l'immensité de tous les êtres qui ont participé à cela. Ce riz a été amené dans des usines avec des camions. D'où viennent les camions? D'où viennent les routes? D'où viennent les usines? Après, peut-être ce riz a été amené par avion. Les avions, d'où viennent les avions? D'où viennent les usines qui ont construit les avions, et tous ces êtres qui participent, tous, combien de nourriture ils ont absorbé, combien d'êtres participent continuellement. Vous voyez que tout est totalement relié, que totalement tout est totalement interdépendant, que dans ce seul bol de riz, tous les êtres universels participent, juste pour un seul bol de riz, juste pour un seul repas. Prendre conscience à chaque bouchée de l'immense bonté, de l'incroyable bonté des êtres à notre égard. De ressentir cela du fond du cœur, pas de façon intellectuelle, mais de se laisser toucher au plus profond du cœur par cette incroyable bonté des êtres. Si nous avons ce que l'on appelle cette précieuse renaissance humaine, le fait d'avoir ce corps humain, mais aussi d'avoir accès à une voie spirituelle, rencontrer les maîtres, avoir la capacité de développer son esprit. C'est parce que dans le passé, nous avons pratiqué, nous avons accompli les actes tels que une pure moralité, la générosité, la patience, les prières. Quelle est la base de la moralité? Quelle est la base de la générosité? Quelle est la base de la patience? À chaque fois, la base, c'est l'existence des êtres sensibles. On ne peut pas générer les 10 actions vertueuses sans dépendre de la bonté des êtres. Donc, on pourrait essayer de chercher quelle est la chose dans ma vie qui ne me vient pas des êtres. Autre que la souffrance de l'existence cyclique, tout le reste vient des êtres. Si je peux générer dans mon cœur un peu d'amour, cela vient seulement de l'existence de l'autre. Générer de la compassion. Nous savons à quel point aucun bonheur ne peut être comparé avec le bonheur de pouvoir aimer un être. Aucun bonheur matériel. Aucun autre bonheur peut être comparé véritablement avec celui d'aimer profondément un être sensible. Et si cet être sensible qui est la base de cette expérience, de ce bonheur intérieur. C'est cette tête qui m'offre cette immense opportunité de pouvoir l'aimer. En fait, on pourrait passer des heures, des jours, des mois, des années à voir, à contempler l'immensité de la bonté des êtres sans jamais trouver une limite. Ressentir cela du fond du cœur encore et encore à chaque instant. Ouvrir notre regard, notre cœur, avec la conscience de cette bonté à notre égard. Mmh. tant que nous croyons que les choses nous sont dues, alors nous vivons dans une telle solitude, un tel désert intérieur, un tel froid intérieur. Mais dès que dans notre esprit, dans notre cœur, apparaît cette expérience, cette perspective de ressentir la bonté des êtres à notre égard, alors en même temps, notre cœur est empli d'une immense, une profonde gratitude. Et cette gratitude remplit tout notre être. De cette présence, dans cette présence, nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes plus dans ce désert, nous n'avons plus peur. Cette gratitude nous libère de toute peur. Et en même temps, nous libère définitivement de cette attitude de misérabilisme, d'apitoiement sur soi. On n'est plus continuellement à la recherche d'être aimé, d'être reconnu, parce que nous avons une telle gratitude d'avoir tellement reçu. C'est un regard nouveau que nous devons, une conscience nouvelle que nous devons générer maintenant. Nous avons ce choix. Donc nous demandons à la Mahachandrasi, du fond du cœur, nous lui demandons ses bénédictions afin d'actualiser cela, de reconnaître la bonté inconcevable des êtres à notre égard, de ressentir cela du fond du cœur, pas de façon intellectuelle. Jusqu'à ressentir que chaque bouchée de nourriture, jusqu'à ressentir que chaque atome de notre corps, chaque respiration qui nous maintient en vie, est seulement l'expression de la bonté des êtres. Seulement l'expression de la bonté des êtres. Chaque battement de cœur. Continuellement, on respire, donc on peut continuellement méditer. Chaque battement de cœur, notre cœur continuellement bat. Les atomes sont toujours là, même s'ils apparaissent, ils disparaissent, mais il y a toujours cette réalité, cette danse des atomes. Donc de ressentir que cet ensemble dépend totalement de la bonté des êtres, et seulement l'expression de la bonté des êtres, rien d'autre. Donc nous devons méditer encore, encore et encore sur ce point, jusqu'à totalement transformer notre esprit, notre cœur, dans cette gratitude. Et au même moment, tout le poids de l'ego, de ce carcan qu'est l'ego, qu'est la saisie dualiste, au même moment, cela disparaît. Donc puissions-nous tous le plus rapidement possible, avec la base de cette équanimité, considérer chaque être sensible comme l'être qui est la source même de notre existence. la source même de nos qualités. Ressentir cette gratitude. Donc l'énergie que l'on a... S'il y a une énergie positive générée dans cette méditation, cela appartient totalement aux êtres. Nous refusons un quelconque bénéfice personnel. Du fond du cœur, nous refusons un quelconque bénéfice personnel, un quelconque bénéfice égocentrique. Cette énergie appartient aux êtres. C'est la moindre façon pour commencer à remercier les êtres. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer à la méditation active pendant l'heure du repas.